Littérature audio présente Le roi Lear de William Shakespeare. Traduction par François Guizot. Lu par Christine. Les personnages. Lear, roi de la Grande-Bretagne. Le roi de France. Le duc de Bourgogne. Le duc de Cornouailles. Le duc d'Albany. Le comte de Gloucester, le comte de Kent, Edgar, fils de Gloucester, Edmond, fils bâtard de Gloucester, Curan, courtisan, un vieillard, vassal de Gloucester, un médecin, le fou du roi Lear, Oswald, intendant de Goneril, un officier, employé par Edmond, un gentilhomme, attaché à Cordélia, un héros, serviteur du duc de Cornouailles, Goneril, Regan, Cordélia, fille du roi Lear, chevalier de la suite du roi Lear, officier, messager, soldat et serviteur. La scène est dans la Grande-Bretagne. Acte 1. Scène 1. Salle d'apparat dans le palais du roi Lear. Entre Ken, Gloucester, Edmond. Kent. J'avais toujours cru au roi plus d'affection pour le duc d'Albany que pour le duc de Cornouailles. Gloucester. C'est ce qui nous avait toujours paru. Mais aujourd'hui, dans le partage de son royaume, rien n'indique quel est celui des deux ducs qu'il préfère. L'égalité y est si exactement observée qu'avec toute l'attention possible, on ne pourrait faire un choix entre les deux parts. Kent. N'est-ce pas là votre fils, Milord ? Gloucester. Son éducation, seigneur, a été à ma charge, et j'ai tant de fois rougi de le reconnaître qu'à la fin je m'y suis endurci. Kent. Je ne saurais concevoir. Gloucester. C'est ce qu'a très bien su faire, seigneur, la mère de ce jeune homme. Aussi son ventre en a-t-il grossi, et elle s'est trouvée avoir un fils dans son berceau avant d'avoir un mari dans son lit. Maintenant, entrevoyez-vous la faute ? Kent. Je ne voudrais pas que cette faute n'eût pas été commise, puisque l'issue en a si bien tourné. Gloucester. Mais c'est que j'ai aussi, seigneur, un fils légitime qui est l'aîné de celui-ci de quelques années, et qui cependant ne m'est pas plus cher. Le petit drôle est arrivé à la vérité un peu insolemment dans ce monde avant qu'on l'y appelât. Mais sa mère était belle. J'ai eu ma foi du plaisir à le faire. Et il faut bien le reconnaître, le coquin. Edmond, connaissez-vous ce noble gentilhomme ? Edmond. Non, Milord. Gloucester. C'est le lord de Kent. Souvenez-vous-en comme d'un de mes plus honorables amis. Edmond. Je prie votre seigneurie de me croire à son service. Kent. Je vous aimerai certainement et chercherai à faire avec vous plus ample connaissance. Edmond. Seigneur, je mettrai mes soins à mériter votre estime. Gloucester. Il est énevant hors du pays, et il faudra qu'il s'absente encore. Trompette au dehors. Voici le roi qui arrive. Entre Lear, le duc de Cornouailles, le duc d'Albany, Goneril, Regan, Cordélia, suite. Lear. Gloucester, vous accompagnerez le roi de France et le duc de Bourgogne. Gloucester. Je vais m'y rendre, mon souverain. Il sort. Lear. Nous, cependant, nous allons manifester ici nos plus secrètes résolutions. Qu'on place la carte sous mes yeux. Sachez que nous avons divisé notre royaume en trois parts, étant fermement résolus de soulager notre vieillesse de tout souci et affaire, pour en charger de plus jeunes forces, et nous traîner vers la mort, délivrés de tout fardeau. Notre fils de Cornouailles, et vous qui ne nous êtes pas moins attachés, notre fils d'Albany, nous sommes déterminés à régler publiquement dès cet instant la dot de chacune de nos filles, afin de prévenir par là tout débat dans l'avenir. L'amour retient depuis longtemps dans notre cour le roi de France et le duc de Bourgogne, rivaux illustres pour l'amour de notre plus jeune fille. Je vais ici répondre à leurs demandes. Dites-moi, mes filles, puisque nous voulons maintenant nous dépouiller tout à la fois de l'autorité, des soins de l'État et de tout intérêt de propriété, quelle est celle de vous dont nous pourrons nous dire le plus aimé, afin que notre libéralité s'exerce avec plus d'étendue là où elle sera sollicitée par des mérites plus grands. À vous, Goneril, notre aînée, parlez la première.
Goneril.
Je vous aime, Seigneur, de plus d'amour que n'en peuvent exprimer les paroles, plus chèrement que la vue, l'espace et la liberté, au-delà de tout ce qui existe de précieux, de riche ou de rare. Je vous aime à l'égal de la vie, accompagnée de bonheur, de santé, de beauté, de grandeur. Je vous aime autant qu'un enfant est jamais aimé, qu'un père l'ait jamais été. Trouvez un amour que l'haleine ne puisse suffire et les paroles parvenir à exprimer. Eh bien, je vous aime encore davantage.
Cordélia, à part.
Que pourra faire Cordélia ? Aimer et se taire.
Lia.
Depuis cette ligne éloignée jusqu'à celle-ci, toute cette enceinte riche d'ombrageuses forêts, de campagnes et de rivières abondantes, de champs aux vastes limites, nous t'en faisons maîtresse, qu'elle soit à jamais assurée à votre prospérité, à toi et au duc d'Albany.
Que répond notre seconde fille, notre bien-aimée Regan, l'épouse de Cornouailles ?
Parle.
Regan.
Je suis faite du même métal que ma sœur, et je m'estime à sa valeur. Dans la sincérité de mon cœur, je trouve qu'elle a défini précisément l'amour que je ressens. Seulement, elle n'a pas été assez loin, car moi, je me déclare ennemie de toutes les autres joies contenues dans le domaine des sentiments les plus précieux, et ne puis trouver de félicité que dans l'affection de votre chère majesté.
Cordélia, à part.
Ah, pauvre Cordélia!
Mais non, cependant, puisque je suis sûre que mon amour est plus riche que ma langue.
Lire à Regan. Toi et les tiens, vous posséderez héréditairement ce grand tiers de notre beau royaume, portion égale en étendue, en valeur, en agrément, à celle que j'ai assurée à Goneril. Et vous maintenant, qui pour avoir été ma dernière joie, n'en fûtes pas la moins chère, vous dont les vignobles de la France et le lait de la Bourgogne sollicitent à l'envi les jeunes amours, qu'avez-vous à dire qui puisse vous attirer un troisième lot, plus riche encore que celui de vos sœurs?
Parlez.
Cordélia.
Rien, Seigneur.
Lire.
Rien.
Cordélia.
Rien.
Lire.
Rien ne peut venir de rien. Parlez donc.
Cordélia.
Malheureuse que je suis, je ne puis élever mon cœur jusque sur mes lèvres. J'aime votre majesté comme je le dois, ni plus, ni moins.
Lia.
Comment, Cordélia ? Corrigez un peu votre réponse, de peur qu'elle ne ruine votre fortune.
Cordélia.
Mon bon seigneur, vous m'avez donné le jour, vous m'avez élevé, vous m'avez aimé. Je vous rends en retour tous les devoirs qui me sont justement imposés. Je vous obéis, je vous aime, et vous révère autant qu'il est possible. Mais pourquoi mes sœurs ont-elles des maris si elles disent n'aimer au monde que vous? Il peut arriver, quand je me marierai, que l'époux dont la main recevra ma foi emporte la moitié de ma tendresse, la moitié de mes soins et de mes devoirs. Sûrement, je ne me marierai jamais comme mes sœurs pour n'aimer au monde que mon père.
Lia.
Mais dis-tu ceci du fond du cœur?
Cordélia.
Oui, mon bon seigneur.
Lia.
Si jeune et si peu tendre.
Cordélia.
Si jeune et si vrai, monseigneur.
Lire.
À la bonne heure. Que ta véracité soit donc ta dot. Car par les rayons sacrés du soleil, par les mystères des quatre et de la nuit, par les influences de ces globes célestes par lesquels nous existons et nous mourons, j'abjure ici tous mes sentiments paternels, tous les liens, tous les droits du sang. Et je te tiens de ce moment et à jamais pour étrangère à mon cœur et à moi. Le site barbare et celui qui fait de ses enfants l'aliment dont il assouvit sa faim seront aussi proches de mon cœur, de ma pitié et de mes secours que toi qui as été ma fille. Kent. Mon bon maître.
Lya.
Taisez-vous, Kent. Ne vous mettez point entre le dragon et sa colère. Je l'ai aimé plus que personne. Et je voulais confier mon repos aux soins de sa tendresse. Sors d'ici, et ne te présente pas à ma vue. Puissais-je trouver la paix dans le tombeau, comme je lui retire ici le cœur de son père. Qu'on fasse venir le roi de France. Obéit-on ? Appelez le duc de Bourgogne, Cornouailles, Albanie. Avec la dot de mes filles, acceptez encore ce tiers. Que cet orgueil qu'elle appelle franchise serve à la mariée. Je vous investis en commun de ma puissance, de mon rang et de ces vastes prérogatives qui accompagnent la majesté royale. Nous, et sans chevaliers que nous nous réservons, entretenus à nos frais, nous vivrons alternativement durant un mois chez chacun de vous, retenant seulement le nom de roi et les titres qui s'y rattachent. Nous vous abandonnons, fils chéri, l'autorité, les revenus et le soin de régler tout le reste. Et pour le prouver, partagez entre vous cette couronne. Il leur donne sa couronne.
Kent. Royal Lear, vous que j'ai toujours honoré comme mon roi, aimé comme mon père, suivi comme mon maître et rappelé dans mes prières comme mon puissant patron.
Lear. L'arc est bandé et tiré. Évite le trait.
Kent.
Qu'il tombe sur moi, dû le faire pénétrer dans la région de mon cœur.
Kent peut manquer au respect quand Lear devient insensé.
Que me feras-tu, vieillard? Penses-tu que le devoir puisse craindre de parler quand le devoir fléchit devant la flatterie?
L'honneur est tenu à la franchise quand la majesté souveraine s'abaisse à la démence. Rétracte ton arrêt. Répare par une plus mûre délibération ta monstrueuse précipitation.
Que ma vie réponde ici de mon jugement.
Ta plus jeune fille n'est pas celle qui t'aime le moins. Ce ne sont pas des cœurs vides. Ceux dont le son peut élever ne retentit point d'un bruit creux.
Lya.
Kent, sur ta vie, pas un mot de plus.
Kent. Je n'ai jamais regardé ma vie que comme un pion à hasarder contre tes ennemis. Je ne crains pas de la perdre, si c'est pour te sauver.
Lya, en colère.
Ôte-toi de ma vue.
Kent.
Regarde-y mieux, Lya, et laisse-moi demeurer devant tes yeux comme leur fidèle point de vue.
Lya.
Cette fois par Apollon.
Kent.
Cette fois par Apollon, ô roi, tu prends le nom de tes dieux en vain.
Lya, mettant la main à son épée.
Vassal, mécréant.
Albanie et Cornouailles.
Cher seigneur, arrêtez.
Kent.
Continue. Tue ton médecin et donne le salaire à ta funeste maladie. Révoque tes dons. Ou tant que mes cris pourront s'échapper de ma poitrine, je te dirai que tu fais mal.
Lear.
Écoute-moi, faux traître. Sur ton allégeance, écoute-moi. Comme tu as tenté de nous faire violer notre serment, ce que nous n'avons encore jamais osé et que les efforts de ton orgueil ont voulu se placer entre nous et notre pouvoir, ce que notre caractère ni notre rang ne nous permettent pas d'endurer, notre pouvoir ayant son plein effet, tu vas recevoir la récompense qui t'est due. Nous t'accordons 5 jours pour arranger tes affaires de manière à te mettre à couvert des détresses de ce monde. Le 6e, tourne à notre royaume ton dos détesté. Si le 10e de ceux qui suivront, ton corps proscrit est trouvé dans l'étendue de notre domination, ce moment sera celui de ta mort. Va-t'en par Jupiter, cet arrêt ne sera pas révoqué.
Kent.
Adieu, roi. Puisque c'est ainsi que tu te montres, la liberté vit loin d'ici, et l'exil est ici.
À Cordelia.
Jeune fille, que les dieux te prennent sous leur puissante protection, toi qui penses juste et qui as parlé avec tant de sagesse.
À Regan et Gonneril.
Vous, puissent vos actions justifier vos magnifiques discours, afin que de ces paroles d'affection puissent naître des effets salutaires.
C'est ainsi, prince, que Kent vous fait à tous ses adieux. Il va continuer son ancienne conduite dans un pays nouveau.
Il sort. Rentre Gloucester avec le roi de France, le duc de Bourgogne et leur suite.
Gloucester.
Voici, mon noble maître, le roi de France et le duc de Bourgogne.
Lya.
Monseigneur de Bourgogne, c'est à vous que nous adresserons le premier la parole. Vous, qui vous êtes déclaré le rival du roi dans la recherche de notre fille. Quel est le moins que vous me demandiez actuellement pour sa dot,
si je ne veux voir cesser vos poursuites amoureuses. »
Le duc de Bourgogne.
« Royale Majesté, je ne demande rien de plus que ce que m'a offert votre grandeur, et vous ne voudrez pas m'offrir moins. »
Lire.
« Très noble duc de Bourgogne, tant qu'elle nous fut chère, nous l'avions estimée à cette valeur. Mais aujourd'hui, elle est déchue de son prix. Seigneur, la voilà devant vous. C'est quelque chose dans cette petite personne trompeuse, ou sa personne entière avec notre déplaisir par-dessus le marché, et rien de plus. » « Paraît suffisamment agréable à votre seigneurie. La voilà, elle est à vous. »
Le duc de Bourgogne.
« Je ne sais que répondre. »
Lire.
« Telle qu'elle est avec ses défauts, sans amis, tout récemment adoptée par ma haine, dotée de ma malédiction, et tenue pour étrangère par mon serment. Voulez-vous, seigneur, la prendre ou la laisser ?»
Le duc de Bourgogne.
« Pardonnez, seigneur roi, mais un choix ne se détermine pas sur de pareilles conditions. »
Lia.
« Laissez-la donc, seigneur, car par le maître qui m'a fait, je vous ai dit toute sa fortune. »
Roi de France.
« Pour vous, grand roi, je ne voudrais pas abuser de votre amour au point de vous unir à ce que je hais. Ainsi, je vous en conjure, tournez votre inclination vers quelque autre objet qui en soit plus digne qu'une malheureuse que la nature a presque honte d'avouer pour sienne. »
Le roi de France.
C'est quelque chose de bien étrange
que celle qui était, il n'y a qu'un moment encore, le premier objet de votre affection, le sujet de vos louanges, le baume de votre vieillesse, ce que vous aviez de meilleur et de plus cher, ait pu, dans l'espace d'un clin d'œil, commettre une action assez monstrueuse pour être dépouillée de tous les replis de votre faveur. Sans doute, il faut que son offense blesse la nature à tel point qu'elle en devienne un monstre. Ou bien, l'affection que vous l'aviez témoignée devient une tâche pour votre majesté. Ce que ma raison ne saurait m'obliger de croire sans le secours d'un miracle.
Cordelia à son père. Je supplie votre majesté, bien que je manque de cet art onctueux et poli de parler sans avoir dessein d'accomplir, puisque je veux exécuter mes bonnes intentions avant d'en parler, de vouloir bien déclarer que ce n'est point une tâche de vice, un meurtre ou une souillure, ni une action contre la chasteté, ni une démarche déshonorante qui m'a privée de votre faveur et de vos bonnes grâces. Mais que c'est pour n'avoir pas possédé, et c'est là ma richesse, cet œil qui sollicite toujours, et cette langue que je me félicite de ne pas avoir, quoique pour ne l'avoir pas, j'ai perdu votre tendresse.
Nia.
Il vaudrait mieux pour toi n'être jamais née que n'avoir pas su me plaire davantage.
Le roi de France.
N'est-ce que cela? Une lenteur naturelle qui souvent néglige de raconter l'histoire de ce qu'elle va faire?
Monseigneur de Bourgogne, que dites-vous à cette dame?
L'amour n'est point l'amour dès qu'il s'y mêle des considérations étrangères à son véritable objet. La voulez-vous? Elle est une dot en elle-même.
Le duc de Bourgogne à Lia.
Royale Lia, donnez-moi seulement la part que vous aviez d'abord offerte de vous-même. Et ici, à l'instant même, je prends la main de Cordelia comme duchesse de Bourgogne.
Lia.
À rien. Je l'ai juré, je suis inébranlable.
Le duc de Bourgogne à Cordelia.
Je suis vraiment fâché que vous ayez perdu votre père à tel point qu'il vous faille aussi perdre un époux.
Cordelia.
La paix soit avec le duc de Bourgogne. Puisque ses considérations de fortune faisaient tout son amour, je ne serai point sa femme.
Le roi de France.
Belle Cordelia, toi qui n'en es que plus riche parce que tu es pauvre, plus précieuse parce que tu es délaissée, plus aimée parce qu'on te méprise, je m'empare de toi et de tes vertus. Que le droit ne m'en soit pas refusé. Je prends ce qu'on rejette. Dieu, Dieu, n'est-il pas étrange que leur froid dédain ait donné à mon amour l'ardeur d'une brûlante adoration? Roi, ta fille sans dot et jetée au hasard de mon choix sera reine de nous, des nôtres et de notre belle France. Tous les ducs de l'humide de Bourgogne ne rachèteraient pas de moi cette fille si précieuse et si peu appréciée. Cordelia, fais-leur tes adieux malgré leur dureté. Tu perds ce que tu possédais ici pour retrouver mieux ailleurs.
Lia,
elle est à toi, roi de France. Qu'elle t'appartienne, cette fille n'est pas à moi. Je ne reverrai jamais son visage. Ainsi, Va-t'en sans notre faveur, sans notre affection, sans notre bénédiction. Venez, noble duc de Bourgogne. »
Fanfare. Sortent Lia, les ducs de Bourgogne, de Cornouailles, d'Albanie, Gloucester et suite. Le roi de France. « Faites vos adieux à vos sœurs. »
Cordélia. « Vous, les joyaux de notre père, Cordélia vous quitte les yeux baignés de larmes. Je vous connais pour ce que vous êtes, et comme votre sœur, je n'en ai que plus de répugnance à appeler vos défauts par leur nom. Soignez bien notre père. Je le confie à vos cœurs qui ont professé tant d'amour. Mais, hélas, si j'étais encore dans ses bonnes grâces, je voudrais lui donner un meilleur asile. Adieu à toutes les deux. »
Régane.
Ne nous prescrivez pas notre devoir.
Goneril.
Étudiez-vous à contenter votre époux qui vous a prise quand vous étiez à la charité de la fortune. Vous avez été avare de votre obéissance, et ce qui en a manqué méritait bien ce qui vous a manqué.
Cordélia.
Le temps développera les replis où se cache l'artifice. La honte vient enfin insulter à ceux qui ont des fautes à cacher. Puissiez-vous prospérer.
Le roi de France.
Venez, ma belle Cordélia.
Le roi de France et Cordélia sortent.
Goneril. Ma sœur, je n'ai pas peu de choses à vous dire sur ce qui nous touche de si près toutes les deux. Je crois que mon père doit partir d'ici ce soir.
Régane.
Rien n'est plus certain. Il va chez vous. Le mois prochain, ce sera notre tour.
Goneril.
Vous voyez combien sa vieillesse est pleine d'inconstance, et nous venons d'en avoir sous les yeux une assez belle preuve. Il avait toujours aimé surtout notre sœur. La pauvreté de sa tête se montre trop visiblement dans la manière dont il vient de la chasser.
Régane.
C'est la faiblesse de l'âge. Cependant, il n'a jamais su que très médiocrement ce qu'il faisait.
Goneril.
Dans son meilleur temps et dans la plus grande force de son jugement, il a toujours été très inconsidéré. Il faut donc nous attendre qu'aux défauts invétérés de son caractère naturel, l'âge va joindre encore les humeurs capricieuses qu'amène avec elle l'infirme et colère vieillesse.
Régane.
Il y a toute apparence que nous aurons à essuyer de lui, par moments, des boutades pareilles à celles qui lui a fait bannir Kent.
Goneril.
Il est encore occupé à prendre congé du roi de France. Je vous en prie, concertons-nous ensemble. Si notre père, avec le caractère qu'il a, conserve quelque autorité, cet abandon qu'il vient de nous faire ne sera qu'une source d'affront pour nous.
Régane.
Nous y réfléchirons à loisir.
Goneril.
Il faut faire quelque chose, et dans la chaleur du moment.
Elle sort.
Scène 2. Une salle dans le château du duc de Gloucester, Edmond tenant une lettre.
Edmond. Nature, tu es ma divinité. C'est à toi que je dois mon obéissance. Pourquoi subirais-je la maladie de la coutume et permettrais-je aux ridicules arrangements des nations de me dépouiller parce que je serai de 12 ou 14 lunes le cadet d'un frère? Mais quoi? Je suis un bâtard. Pourquoi en serais-je méprisable lorsque mon corps est aussi bien proportionné, mon esprit aussi élevé et ma figure aussi régulière que celle du fils d'une honnête dame. Pourquoi donc nous insulter de ces mots de ville, de bassesse, de bâtardise? Ville, ville, nous qui, dans le vigoureux larcin de la nature, puisons une constitution plus forte et des qualités plus énergiques qu'il n'en entre dans un lit ennuyé, fatigué et dégoûté, dans la génération d'une tribu entière d'imbéciles engendrés entre le sommeil et le réveil. Ainsi donc, légitime Edgar, il faut que j'aie vos biens. L'amour de notre père appartient au bâtard Edmond comme au légitime Edgar. Légitime, le beau mot. À la bonne heure, mon cher légitime. Mais si cette lettre réussit et que mon invention prospère, le vil Edmond passera par-dessus la tête du légitime Edgar. Je grandis, je prospère. Maintenant, Dieu, rangez-vous du parti des bâtards.
Entre Gloucester.
Gloucester. Kent banni de la sorte, et le roi de France parti en courroux. Et le roi qui s'en va ce soir, qui délaisse son autorité, réduit à sa pension. Et tout cela fait bruyamment.
Il aperçoit Edmond.
Edmond, eh bien, quelle nouvelle?
Edmond cachant la lettre.
« Sauf le bon plaisir de votre seigneurie, aucune. »
Gloucester. « Pourquoi tant empressement à cacher cette lettre ?»
Edmond. « Je ne sais aucune nouvelle, seigneur. »
Gloucester.
« Quel est ce papier que vous lisiez ?»
Edmond.
« Ce n'est rien, seigneur. »
Gloucester.
« Rien ? Et pourquoi donc cette terrible promptitude à le faire rentrer dans votre poche ?»«
Rien n'est pas une qualité qui ait si grand besoin de se cacher. »
« Voyons cela. Allons, si ce n'est rien, je n'aurai pas besoin de lunettes. »
Edmond.
« Je vous en conjure, seigneur, excusez-moi. C'est une lettre de mon frère que je n'ai pas encore lue en entier. Mais j'en ai lu assez pour juger qu'elle n'est pas faite pour être mise sous vos yeux. »
Gloucester.
« Donnez-moi cette lettre, monsieur. »
Edmond.
« Je commettrai une faute, soit que je vous la refuse, soit que je vous la donne. Son contenu, autant que j'en puis juger, sur ce que j'en ai lu, est blâmable. »
Gloucester.
« Voyons, voyons. »
Edmond.
« J'espère, pour la justification de mon frère, qu'il n'a écrit cette lettre que pour sonder, pour éprouver ma vertu. »
Gloucester, elle lit. « Cet assujettissement, ce respect pour la vieillesse, rendent la vie amère à ce qu'il y a de meilleur de notre temps. » Ils nous retiennent notre fortune jusqu'à ce que l'âge nous ôte les moyens d'en jouir. Je commence à trouver bien sotte et bien débonnaire cette soumission à nous laisser opprimer par la tyrannie des vieillards, qui gouvernent non parce qu'ils ont la force, mais parce que nous le souffrons. Viens me trouver afin que je t'en dise davantage. Et si mon père voulait dormir jusqu'à ce que je le réveillasse, tu jouirais à perpétuité de la moitié de son revenu. Et tu vivrais le bien-aimé de ton frère Edgar.
Une conspiration. Dormir jusqu'à ce que je le réveillasse. Tu jouirais de la moitié de son revenu.
Mon fils Edgar, il a pu trouver une main pour écrire ceci, un cœur et un cerveau pour le concevoir. Quand avez-vous reçu cette lettre? Qui vous l'a apportée?
Edmond. « Elle ne m'a point été apportée, seigneur. Voici la ruse qu'on a employée. Je l'ai trouvée jetée par la fenêtre de mon cabinet. »
Gloucester.
« Vous connaissez ses caractères pour être de votre frère ?»
Edmond.
« Si c'était une lettre qu'on pût approuver, seigneur, j'oserais jurer que c'est son écriture. Mais pour celle-ci, je voudrais bien croire qu'elle n'est pas de lui. »
Gloucester.
« C'est son écriture. »
Edmond.
« Oui, c'est sa main, seigneur, mais j'espère que son cœur n'a point de part à ce que contient cet écrit. »
Gloucester.
« Ne vous a-t-il jamais sondé sur cette affaire ?»
Edmond.
« Jamais, seigneur. Seulement, je l'ai souvent entendu soutenir qu'il serait à propos, lorsque les enfants sont parvenus à la maturité et que les pères commencent à pencher vers leur déclin, que le père devint le pupille du fils et le fils administrateur des biens du père. »
Gloucester.
Oh, scélérat, scélérat! Voilà son système dans cette lettre. Oh Dieu, scélérat! Fils dénaturé, exécrable, bête brute! Pire encore que les bêtes brutes! Allez, s'il vous plaît, le chercher. Je veux m'assurer de sa personne. Le scélérat abominable! Où est-il?
Edmond.
Je ne le sais pas bien, seigneur, mais si vous consentiez à suspendre votre indignation contre mon frère, jusqu'à ce que vous puissiez tirer de lui des preuves plus certaine de ses intentions, ce serait suivre une marche plus sûre, au lieu que si, en procédant violemment contre lui, vous veniez à vous méprendre sur ses desseins, ce serait une plaie profonde à votre honneur, et vous briseriez un cœur soumis. J'ose engager ma vie pour lui, et garantir qu'il n'a écrit cette lettre que dans la vue d'éprouver mon attachement pour vous, et sans aucun projet dangereux.
Gloucester.
Le crois-tu ?
Edmond.
Si vous le jugez à propos, je vous placerai en un lieu d'où vous pourrez nous entendre conférer ensemble sur cette lettre, et vous satisfaire par vos propres oreilles. Et cela, pas plus tard que ce soir.
Gloucester.
Il ne peut pas être un pareil monstre.
Edmond.
Il ne l'est sûrement pas.
Gloucester.
Pour son père qu'il aime si tendrement, si complètement.
Ciel et terre.
Edmond, trouvez-le. Amenez-le par ici. Je vous en prie. Arrangez les choses selon votre prudence.
Je donnerais ma fortune pour savoir la vérité.
Edmond. Je vais le chercher à l'instant, seigneur. Je conduirai la chose comme je trouverai moyen de le faire, et je vous en rendrai compte.
Gloucester. Ces dernières éclipses de soleil et de lune ne nous présagent rien de bon. La raison peut bien, par les lois de la sagesse naturelle, les expliquer d'une ou d'autre manière. Mais la nature ne s'en trouve pas moins très souvent victime de leurs fatales conséquences. L'amour se refroidit, l'amitié s'éteint, les frères se divisent. Dans les villes, des révoltes. Dans les campagnes, la discorde. Dans les palais, la trahison. Et le nœud qui unit le père et le fils, brisé. Mon scélérat rentre dans la prédiction. C'est le fils contre le père. Le roi s'écarte du penchant de la nature, c'est le père contre l'enfant. Nous avons vu notre meilleur temps. Les machinations, les trames obscures, les trahisons, et tous les désordres les plus funestes vont nous suivre en nous tourmentant jusqu'à nos tombeaux. Edmond, trouve-moi ce misérable. Tu n'y perdras rien. Agis avec prudence. Et le noble et fidèle Kent bannit. Son crime, c'est la probité. Étrange, étrange. Il sort.
Edmond sœur. Voilà bien la singulière impertinence du monde. Notre fortune se trouve-t-elle malade, souvent par une plénitude de mauvaise conduite, nous accusons de nos désastres le soleil, la lune et les étoiles, comme si nous étions infâmes par nécessité, imbéciles par une impérieuse volonté du ciel, fripons, voleurs et traîtres par l'action invincible des sphères, ivrognes, menteurs et adultères par une obéissance forcée aux influences des planètes, et que nous ne fissions jamais le mal que par la violence d'une impulsion divine. Admirable excuse du libertin que de mettre ses penchants lascifs à la charge d'une étoile. Mon père s'arrangea avec ma mère sous la queue du dragon, et ma naissance se trouva dominée par l'Ursa Major, d'où il s'ensuit que je suis brutale et débauchée. Bah, j'aurais été ce que je suis quand la plus vierge des étoiles du firmament aurait scintillé sur le moment qui a fait de moi un bâtard.
Entre Edgar.
Edgar, il arrive à point comme la catastrophe d'une vieille comédie. Mon rôle à moi, c'est une mélancolie perfide et un soupir comme ceux de Tom de Beldam. Oh, ces éclipses nous présageaient ces divisions. Fa, sol, la, mi.
Edgar. Qu'est-ce que c'est, mon frère Edmond? Nous voilà dans une sérieuse contemplation.
Edmond. Je rêvais, mon frère, à une prédiction que j'ai lue l'autre jour sur ce qui doit suivre ces éclipses.
Edgar. Est-ce que vous vous inquiétez de cela?
Edmond. Je vous assure que les effets dont elle parle ne s'accomplissent que trop malheureusement. Des querelles dénaturées entre les enfants et les parents, des morts, des famines, des ruptures d'anciennes amitiés, des divisions dans l'État, des menaces et des malédictions contre le roi et les nobles, des méfiances sans fondement, des amis exilés, des cohortes dispersées, des mariages rompus, et je ne sais quoi encore.
Edgar. Depuis quand êtes-vous devenu sectateur de l'astronomie?
Edmond.
Allons, allons. Quand avez-vous vu mon père pour la dernière fois?
Edgar.
Eh bien, hier au soir.
Edmond.
Avez-vous causé avec lui?
Edgar.
Oui, 2 heures entières.
Edmond.
Vous êtes-vous quitté en bonne intelligence? N'avez-vous remarqué dans ses paroles ou dans son air aucun signe de mécontentement?
Edgar.
Aucun.
Edmond.
Réfléchissez en quoi vous avez pu l'offenser, et je vous en conjure, évitez sa présence jusqu'à ce qu'un peu de temps ait modéré la violence de son ressentiment. Si furieux en ce moment, qu'en vous faisant du mal, il serait à peine apaisé.
Edgar.
Quelque misérable m'aura calomnié.
Edmond.
C'est ce que je crains. Je vous en prie. Tenez-vous à l'écart jusqu'à ce que la fougue de sa colère soit un peu ralentie. Et, comme je vous le dis, retirez-vous avec moi dans mon appartement. Là, je vous mettrai à portée d'entendre les discours de mon père. Allez, je vous en prie. Voilà ma clé. Et si vous sortez, sortez armé.
Edgar.
Ah, mais mon frère!
Edmond.
Mon frère, ce que je vous dis est pour le mieux. Allez armés.
que je ne sois pas un honnête homme si l'on a de bonnes intentions à votre égard. Je vous dis ce que j'ai vu et entendu, mais bien faiblement, et rien qui approche de la réalité et de l'horreur de la chose. De grâce, éloignez-vous.
Edgar, aurai-je bientôt de vos nouvelles ?
Edmond, je vais m'employer pour vous dans tout ceci.
Edgar sort. Un père crédule, un frère généreux dont le naturel est si loin de toute malice qu'il n'en soupçonne aucune dans autrui, et dont mes artifices gouverneront à l'aise la sotte honnêteté. Voilà l'affaire. Le bien me viendra, sinon par ma naissance, du moins par mon esprit. Tout m'est bon, si je puis le faire servir à mes vues.
Scène 3. Appartement dans le palais du duc d'Albany.
Goneril. Est-il vrai que mon père ait frappé mon écuyer parce qu'il réprimandait son fou ?
Oswald.
Oui, madame.
Goneril.
Par le jour et la nuit, c'est m'insulter. À chaque instant, il s'emporte de façon ou d'autre à quelque énorme sottise qui nous met tous en désarroi. Je ne l'endurerai pas. Ces chevaliers deviennent tapageurs, et lui-même, il se fâche contre nous pour la moindre chose. Il va revenir de la chasse. Je ne veux pas lui parler. Vous lui direz que je suis malade, et vous ferez bien de vous ralentir dans votre service auprès de lui. J'en prends sur moi la faute.
Oswald.
Le voilà qui vient, madame. Je l'entends.
On entend le son des cors.
Goneril.
Mettez dans votre service tout autant d'indifférence et de lassitude qu'il vous plaira, vous et vos camarades.
Je voudrais qu'il s'en plaignît.
Et s'il le trouve mauvais, qu'il aille chez ma sœur. Son intention, je le sais, et la mienne, s'accordant parfaitement dans ce point que nous ne voulons pas être maîtrisés. Un vieillard inutile qui voudrait encore exercer tous ses pouvoirs qu'il a abandonnés. Sur ma vie, ces vieux radoteurs redeviennent des enfants, et il faut les mener par la rigueur. Quand ils se voient caressés, ils en abusent. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit.
Oswald.
Très bien, madame.
Goneril.
Et traitez ces chevaliers avec plus de froideur. Ne vous inquiétez pas de ce qui pourra en arriver. Prévenez vos camarades d'en agir de même. Je voudrais trouver en ceci, et j'en viendrai bien à bout, une occasion de m'expliquer. Je vais tout à l'heure écrire à ma sœur et lui recommander la même conduite. Conserve le dîner.
Ils sortent. Scène 4. Une salle du palais, entre Kent déguisé.
Kent. Si je puis seulement réussir à emprunter des accents qui déguisent ma voix, il se peut faire que les bonnes intentions qui m'ont engagé à déguiser mes traits obtiennent leur plein effet. Maintenant, Kent le banni, si tu peux te rendre utile dans ces lieux où tu vis condamné, et puisse-t-il en être ainsi, ton maître chéri te retrouvera plein de zèle.
Corps de chasse, Lyre paraît avec ses chevaliers et sa suite.
Lya. Qu'on ne me fasse pas attendre le dîner une seule minute. Allez, servez.
Sort un domestique.
Ah ah, qui es-tu, toi ?
Kent.
Un homme, seigneur.
Lya.
Qu'est-ce que tu sais faire ? Que veux-tu de nous ?
Kent.
Je ne sais n'être pas au-dessous de ce que je parais, servir fidèlement celui qui aura confiance en moi, aimer celui qui est honnête, converser avec celui qui est sage et qui parle peu, redouter les jugements, me battre quand je ne peux pas faire autrement, et ne pas manger de poisson.
Lya.
Qui es-tu ?
Kent.
Un très honnête garçon. Aussi pauvre que le roi.
Lya.
Si tu es aussi pauvre pour un sujet qu'il l'est pour un roi, tu es assez pauvre.
Que veux-tu ?
Kent.
Du service.
Lya.
Qui voudrais-tu servir ?
Kent.
Vous.
Lya.
Me connais-tu, Marot ?
Kent.
Non, seigneur, mais vous avez dans votre physionomie quelque chose qui fait que j'aimerais à vous dire « mon maître ».
Lya.
Qu'est-ce que c'est ?
Kent.
De l'autorité.
Lya.
De quel service es-tu capable ?
Kent.
Je puis garder d'honnêtes secrets, courir à cheval, à pied, gâter une histoire intéressante en la racontant et rendre platement un simple message. Je suis propre à tout ce que peut faire le commun des hommes. Ce que j'ai de mieux, c'est l'activité.
Lya.
Quel âge as-tu ?
Kent.
Je ne suis pas assez jeune, seigneur, pour m'amouracher d'une femme à l'entendre chanter, ni assez vieux pour en raffoler n'importe pour quelle raison. J'ai sur les épaules quelque 48 ans.
Lya.
Suis-moi, tu vas me servir.
Si après le dîner tu ne me déplais pas plus qu'à présent, je ne te congédierai pas de sitôt.
Le dîner ! Holà ! Le dîner !
Où est mon petit drôle ? Mon fou ! Allez me chercher mon fou. Entre Oswald.
Et vous, l'ami ? Où est ma fille ?
Oswald. Avec votre permission. Il sort. Lia.
Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Rappelez-moi ce Manon. Où est mon fou ? Holà !
Je crois que tout dort, ici.
Eh bien, où est-il donc, ce métis ?
Un chevalier.
Il dit, seigneur, que votre fille ne se porte pas bien.
Lia.
Pourquoi ce gredin-là n'est-il pas revenu sur ses pas quand je l'ai appelé ?
Le chevalier.
Seigneur, il m'a déclaré tout bonnement qu'il ne le voulait pas.
Lia.
Qu'il ne le voulait pas !
Le chevalier.
Seigneur, je ne sais pas quelle en est la raison, mais à mon avis, votre grandeur n'est pas accueillie avec cette affection respectueuse qu'on avait coutume de vous montrer. J'aperçois une grande diminution de bienveillance chez tous les gens de la maison, aussi bien que chez le duc lui-même et chez votre fille.
Lia.
Vraiment ? Le penses-tu ?
Le chevalier.
Je vous prie de me pardonner, seigneur, si je me suis trompé, mais mon devoir ne peut se taire quand je crois votre majesté offensée.
Lia.
Tu ne fais que me rappeler mes propres idées. Je me suis bien aperçue depuis peu de beaucoup de négligence. Mais j'étais disposée plutôt à m'accuser moi-même d'une exigence trop soupçonneuse qu'à y voir une conduite et une intention désobligeante. Je regarderai de plus près. Mais où est mon fou ? Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours.
Le chevalier.
Depuis que ma jeune maîtresse est partie pour la France, seigneur, votre fou a bien dépéri.
Lia.
En voilà assez là-dessus. Je l'ai bien remarqué. Allez, dites à ma fille que je veux lui parler.
Sort un chevalier.
Vous, allez me chercher mon fou.
Sort un chevalier.
Rentre Oswald.
Et vous, l'ami ! L'ami ! Approchez !
Qui suis-je, s'il vous plaît ?
Oswald. Le père de ma maîtresse.
Lia.
Le père de ma maîtresse. Et vous, le valet de votre maître. Chien de bâtard, esclave, mâtin.
Oswald.
Je ne suis rien de tout cela. Je vous demande pardon, seigneur.
Lia.
Je crois que tu t'avises de me regarder en face. Insolent.
Il le frappe.
Oswald. Je ne veux pas être battu, seigneur.
Kent.
Ni donner du nez en terre non plus. Mauvais joueur de ballon.
Il le prend par les jambes et le renverse.
Lia. Je te remercie, ami. Tu me rends service et je t'aimerai.
Kent.
Allons, relevez-vous, mon maître, et dehors. Je vous apprendrai votre place. Hors d'ici. Hors d'ici.
Si vous voulez prendre encore la mesure d'un lourdeau, restez ici.
Mais dehors. Allons-y, pensez-vous. Dehors.
Il pousse Oswald dehors.
Lia. Tu es un garçon dévoué. Je te remercie. Voilà les arts de ton service.
Il lui donne de l'argent. Entre le fou.
Le fou à lire.
Laissez-moi prendre aussi mes gages. Tiens, voici ma cape.
Il donne à Kent son bonnet.
Lire. Eh bien, pauvre petit, comment vas-tu ?
Le fou à Kent.
Tu ferais bien de prendre ma cape.
Kent.
Pourquoi, fou ?
Le fou.
Pourquoi ? Parce que tu prends le parti de celui qui est dans la disgrâce. Vraiment, si tu ne sais pas sourire du côté où le vent souffle, tu auras bientôt pris froid. Allons, mets ma cape. Eh oui, cet homme a éloigné de lui 2 de ses filles et a rendu la 3e heureuse bien malgré lui. Si tu t'attaches à lui, il faut de toute nécessité que tu portes ma cape.
Alire.
Ma foi, oncle, je voudrais bien avoir 2 capes et 2 filles.
Lia.
Pourquoi, mon garçon ?
Le fou.
Si je leur donnais tout mon bien, je garderais pour moi mes 2 capes. Mais tiens, voilà la mienne. Demande-en une autre à tes filles.
Lia.
Prends garde au fouet, petit drôle.
Le fou.
La vérité est le dog qui doit se tenir au chenil et qu'on chasse à coups de fouet, pendant que Lady, la chienne braque, peut venir nous empester au coin du feu.
Lia.
C'est une peste pour moi que ce coquin-là.
Le fou.
Mon cher, je vais t'enseigner une sentence.
Lia.
Voyons.
Le fou.
Écoute bien, oncle, et plus que tu ne montres, parle moins que tu ne sais. Prête moins que tu n'as. Va plus à cheval qu'à pied. Apprends plus de choses que tu n'en crois. Parie pour 1 point plus bas que celui qui te tient. Quitte ton verre et ta maîtresse, et tiens-toi quoi dans ta maison ?
et tu auras alors plus de 2 dizaines à la vingtaine.
Lia. Cela ne signifie rien, fou.
Le fou. C'est en ce cas comme la harangue d'un avocat sans salaire. Vous ne m'avez rien donné pour cela. Est-ce que vous ne savez pas tirer parti de rien, oncle?
Lia.
Non, en vérité, mon enfant. On ne peut rien faire de rien.
Le fou acquête.
Je t'en prie, dis-lui que c'est à cela que se monte le revenu de ses terres. Il n'en voudrait pas croire un fou.
Lia.
Oh, tu es un fou bien mordant.
Le fou.
Et sais-tu, mon garçon, la différence qu'il y a entre un fou mordant et un fou débonnaire?
Lia.
Non, petit. Apprends-le-moi.
Le fou.
C'est l'arde qui t'a conseillé de te dépouiller de tes domaines. Viens, place-le ici près de moi. Ou bien toi, prends sa place. Le fou débonnaire et le fou mordant seront aussitôt en présence. L'un ici en habit bigarré, et on trouvera l'autre là.
Lia. Est-ce que tu m'appelles fou, petit?
Le fou. Tu as cédé tous les autres titres que tu avais apportés en naissant.
Kent. Ceci n'est pas tout à fait de la folie, seigneur.
Le fou. Non, en vérité. Les lords et les grands personnages ne veulent rien me concéder. Si j'avais un monopole, il leur en faudrait leur part. Et aux dames aussi. Elles ne me laisseront pas les sottises à moi tout seul. Elles en tireront leur lopin. Donne-moi 9, oncle, et je te donnerai 2 couronnes.
Lia. Qu'est-ce que ce sera que ces 2 couronnes?
Le fou. Voilà, quand j'aurai coupé l'œuf par le milieu et mangé tout ce qui est dedans, je te donnerai les 2 couronnes de l'œuf. Lorsque tu as fendu ta couronne par le milieu et que tu as donné à droite et à gauche les 2 moitiés, tu as porté ton âne sur ton dos, au milieu de la fange. Tu n'avais guère de cervelle dans la couronne chauve de ton crâne lorsque tu as laissé aller ta couronne d'or. Si je parle ici comme un fou que je suis, que le premier qui le trouvera soit fouetté.
Il chante.
Jamais les fous n'ont eu moins de vogue que cette année, car les sages sont devenus des écervelés. Ils ne savent que faire de leur bon sens, tant leur conduite est baroque.
Lire. Et depuis quand, je vous en prie, êtes-vous si bien fourni de chansons, Marot?
Le fou. C'est mon usage, donc. Depuis que par ta grâce tes filles sont devenues ta mère, quand tu leur as donné les verges et que tu as mis bas tes culottes.
Il chante.
Alors, saisies de joie, elles ont pleuré, et moi j'ai chanté dans mon chagrin de ce qu'un roi tel que toi jouait à clignemusette, et ça les mettre avec les fous. Je t'en prie, oncle, prends un maître qui puisse enseigner à ton fou à mentir. Je t'en prie, oncle, prends un maître qui puisse enseigner à ton fou à mentir. Je voudrais bien apprendre à mentir.
Lia. Si vous mentez vaut rien, vous serez fouetté.
Le fou. Je me demande quelle parenté tu as avec tes filles. Elles veulent qu'on me fouette quand je dis la vérité. Et toi, tu veux me faire fouetter si je mens. Et quelquefois encore, je suis fouettée pour n'avoir rien dit. J'aimerais mieux être tout autre chose qu'un fou. Et cependant, je ne voudrais pas être toi, oncle. Tu as rogné ton bon sens des 2 côtés sans rien laisser au milieu. Tiens, voilà une des rognures.
Entre Gonneril. Lia.
Eh bien, ma fille, pourquoi as-tu mis ton bonnet de travers? Depuis quelques jours, je vous trouve un peu trop renfrogné.
Le fou.
Tu étais un joli garçon quand tu n'avais pas besoin de t'inquiéter si elle fronçait le sourcil. Mais aujourd'hui, te voilà un 0 en chiffres. Je vaux mieux que toi maintenant. Je suis un fou, et toi, tu n'es rien. Allons, par ma foi, je vais tenir ma langue.
À Gonneril.
Car votre figure me l'ordonne, quoique vous ne disiez rien.
Chut, chut!
Celui qui ne garde ni mie ni croûte, là de tout, se trouvera pourtant manqué de quelque chose.
Montrant lire.
C'est une gousse de pois écossais.
Gonneril. Seigneur, ce n'est pas seulement votre fou à qui tout est permis, mais d'autres encore de votre insolente suite qui censurent et se plaignent à toute heure, élevant sans cesse d'indécents tumultes qui ne sauraient se supporter. J'avais pensé que le plus sûr remède était de vous faire bien connaître ce qui se passe, mais je commence à craindre, d'après ce que vous avez tout récemment dit et fait vous-même, que vous ne protégiez cette conduite et que vous ne l'encouragiez par votre approbation. Si cela était,
Un pareil tort ne pourrait échapper à la censure, ni laisser dormir les moyens de répression. Peut-être dans l'emploi qu'on en ferait pour le rétablissement d'un ordre salutaire, vous arriverait-elle de recevoir quelque offense dont on aurait honte dans tout autre cas, mais qu'on serait alors forcé de regarder comme une mesure de prudence.
Le fou.
Car vous savez, oncle, que le moineau nourrit si longtemps le coucou qu'il eut la tête enlevée par les petits. Ainsi, la chandelle s'est éteinte et nous sommes restés dans l'obscurité.
Lire à Goneril.
Êtes-vous notre fille ?
Goneril.
Allons, seigneur, je voudrais vous voir user de cette raison solide dont je sais que vous êtes pourvu et vous défaire de ces humeurs qui, depuis quelque temps, vous rendent tout autre que ce que vous êtes naturellement.
Le fou.
Un âne ne peut-il pas savoir quand c'est la charrette qui traîne le cheval ? Diahu ! Cela va bien ?
Lia.
Quelqu'un me connaît-il ici ? Ce n'est point là, Lia. Lia marche-t-il ainsi ? Parle-t-il ainsi ? Que sont devenus ses yeux ? Ou son intelligence est affaiblie, ou son discernement est en léthargie. Suis-je endormi ou éveillé? Ah, sûrement, il n'en est pas ainsi. Qui pourra me dire qui je suis? L'ombre de Lire? Je voudrais le savoir, car ces marques de souveraineté, ma mémoire, ma raison, pourraient à tort me persuader que j'ai eu des filles.
Le fou.
Qui feront de vous un père obéissant?
Lire.
Votre nom, ma belle dame?
Goneril.
Allons, seigneur, cet étonnement est tout à fait du genre de vos autres nouvelles facéties. Je vous conjure, prenez mes intentions en bonne part. Vieux et respectable comme vous l'êtes, vous devriez être sage. Vous gardez ici 100 chevaliers et écuyers, tous gens si désordonnés, si débauchés et si audacieux, que notre cour, corrompue par leur conduite, ressemble à une auberge de tapageurs. Leurs excès, leur libertinage, lui donnent l'air d'une taverne ou d'un mauvais lieu, beaucoup plus que du palais royal. La décence elle-même demande un prompt remède. Laissez-vous donc prier, par une personne qui pourrait bien autrement prendre ce qu'elle demande, de consentir à diminuer un peu votre suite, et que ceux qui continueront à demeurer à votre service soient des gens qui conviennent à votre âge et qui sachent se conduire et vous respecter.
Lia.
Ténèbres et démons, scellez mes chevaux, appelez ma suite. Bâtard de dégénéré, je ne te causerai plus d'embarras. Il me reste encore une fille.
Goneril.
Vous frappez mes gens, et votre canaille désordonnée veut se faire servir par ceux qui valent mieux qu'elle.
Entre Albany.
Lire. Malheur à celui qui se repent trop tard.
Albany.
Ah, vous voilà, monsieur. Ce sont là vos intentions. Parlez, monsieur. Qu'on prépare mes chevaux. Ingratitude, démon au cœur de marbre, plus hideuse quand tu te montres dans un enfant que ne l'est le monstre de la mer.
Albany.
De grâce, seigneur, modérez-vous.
Lire à Goneril.
Vautours détestés, tu mens. Les gens de ma suite sont des hommes choisis et du plus rare mérite, soigneusement instruits de leurs devoirs et de la dernière exactitude à soutenir la dignité de leur nom. Oh, combien tu me parus laid d'avoir, faute légère de Cordélia, qui, semblable à la géhenne, fit tout sortir dans la structure de mon être de la place qui lui était assignée, retira tout mon amour de mon cœur et vint grossir en moi le fiel. Oh, Lia, Lia, Lia!
Se frappant le front.
Frappe à cette porte qui a laissé échapper la raison et entrer la folie.
Partons, partons, mes amis.
Albany.
Seigneur, je suis aussi innocent qu'ignorant de ce qui vous a mis en colère.
Lia.
Cela se peut, seigneur. Entends-moi, ô nature, entends-moi, divinité chérie, entends-moi. Suspends tes desseins, si tu te proposais de rendre cette créature féconde. Porte dans son sein la stérilité. Dessèche en elle les organes de la reproduction. Et qu'il ne naisse jamais de son corps dégénéré un enfant pour lui faire honneur. Ou s'il faut qu'elle le produise, fais naître d'elle un enfant de tristesse. Qu'il vive pervers et dénaturé pour être son tourment. Qu'il imprime dès la jeunesse des rides sur son front. Et que les larmes qu'il lui fera répandre creusent leurs canaux sur ses joues. Que toutes les douleurs de sa mère, tous ses bienfaits, soient tournés par lui en dérision et en mépris. Afin qu'elle puisse sentir combien la dent du serpent est moins cruelle que la douleur d'avoir un enfant ingrat. Allons, partons, partons.
Il sort. Albany.
Mais au nom des dieux que nous adorons, d'où vient donc tout ceci?
Goneril.
Ne vous tourmentez pas en savoir la cause, et laissez le radoter en pleine liberté au gré de son humeur.
Rentre Lire.
Lire. Comment ? 50 de mes chevaliers d'un seul coup, et cela au bout de 15 jours ?
Albany.
De quoi s'agit-il, seigneur ?
Lire.
Je te le dirai. Mort et vie.
Agonril.
Je rougis que tu puisses à ce point ébranler ma force d'homme, et que tu sois digne encore de ces larmes brûlantes qui m'échappent malgré moi. Que les tourbillons et les brouillards t'enveloppent, que les incurables blessures de la malédiction d'un père frappent tout essence. Dieu d'un vieillard trop prompt à s'attendrir, encore des pleurs pour un pareil sujet, je vous arrache, et vous irez, avec les larmes que vous laissez échapper, amollir la dureté de la terre. Ah, en sommes-nous venus là ? Eh bien, soit, il me reste encore une fille qui, j'en suis sûre, est tendre et secourable. Elle apprendra ce que tu as fait, de ses ongles elle déchirera ton visage de louve. Tu me verras reparaître sous cette forme dont tu crois que je me suis dépouillée pour jamais. Tu le verras, je t'en réponds.
Sortent Lire, Kent et la suite.
Gonril. Remarquez-vous ceci, seigneur ?
Albany.
Gonril, tout l'amour que j'ai pour vous ne peut me rendre assez partial.
Gonril.
De grâce, soyez tranquille.
Hola, Oswald !
Au fou. Vous, l'ami plus coquin que fou, suivez votre maître.
Le fou.
N'oncle Lire, n'oncle Lire, attends-moi, et emmène ton fou avec toi.
Un renard qu'on a pris, et une fille de cette espèce serait bientôt dépêchée, si de ma cape je pouvais acheter une corde. C'est ainsi que le fou vous quitte le dernier.
Il sort.
Gonril.
Cet homme a été bien conseillé, sans chevalier. Il serait en effet politique et prudent de lui laisser sous la main sans chevalier tout près. Oui, afin qu'à la moindre chimère, pour un mot, une fantaisie, au plus léger sujet de plainte ou de dégoût, il puisse, protégeant son radotage par ses forces, tenir nos vies à sa merci.
Oswald, m'a-t-on entendu ?
Albany.
Vous pourriez pousser trop loin vos craintes.
Gonril.
Cela est plus sûr que de s'y fier. Laissez-moi continuer à tenir éloignés les maux que je crains, plutôt que de craindre toujours d'en être surprise. Je connais son cœur. Tout ce qu'il a dit, là, je l'ai mandé à ma sœur. Si elle veut le soutenir, lui et ses 100 chevaliers, maintenant que je lui en ai montré tous les inconvénients.
Entre Oswald.
Eh bien, Oswald, avez-vous écrit cette lettre pour ma sœur ?
Oswald.
Oui, madame.
Gonril.
Prenez avec vous quelques suites et montez promptement à cheval. Instruisez ma sœur tout au long de mes craintes particulières et ajoutez-y les raisons que vous jugerez convenables pour leur donner plus de consistance. Allons, partez et pressez votre retour.
Oswald sort. À Albany.
Non, non, seigneur, cette pacifique douceur et conduite que vous tenez, bien que je ne la blâme pas, vous attire plus souvent, souffrez que je vous le dise, le reproche de manquer de sagesse qu'elle ne vaut d'éloge à votre dangereuse bonté.
Albany.
Jusqu'où s'étend la portée de votre vue, c'est ce que j'ignore. En nous agitant pour trouver le mieux, nous gâtons souvent le bien.
Gonril.
Mais en ce cas,
Albany.
Bien, bien, on verra l'événement.
Ils sortent.
Scène 5. Une cour devant le palais d'Albany. Entre Lia, Kent, le fou.
Lia à Kent.
Prenez les devants et rendez-vous à Gloucester avec cette lettre. N'informez ma fille de ce que vous pouvez savoir qu'autant qu'elle vous questionnera sur ma lettre. Si vous ne faites pas la plus grande diligence, j'y arriverai avant vous.
Kent.
Je ne dormirai point, seigneur, que je n'ai remis votre lettre.
Il sort.
Le fou.
Si la cervelle d'un homme était dans ses talons, ne courait-elle pas risque de gagner des engelures ?
Lire.
Oui, mon enfant.
Le fou.
Alors tiens-toi en gaieté, je te conseille, car ton esprit n'ira pas en pantoufles.
Lire.
Le fou. Tu verras comme ton autre fille se conduira tendrement avec toi. Car bien qu'elle ressemble autant à celle-ci qu'une pomme sauvage à une rainette, cependant je puis dire ce que je puis dire.
Lire.
Qu'as-tu à dire, mon enfant ?
Le fou.
Il n'y aura pas dans ce cas-ci plus de différence de goût entre elles deux qu'entre une pomme sauvage et une pomme sauvage. Saurais-tu me dire pourquoi on a le nez au milieu du visage ?
Lire.
Non.
Le fou.
Eh, vraiment, c'est pour qu'il y ait un œil de chaque côté du nez, afin que ce qu'un homme ne peut pas flairer, il puisse le regarder.
Lia. C'est moi qui l'ai mise dans son tort. Le fou.
Peux-tu me dire comment une huître fait son écaille?
Lia.
Non.
Le fou.
Ni moi non plus. Mais je te dirai pourquoi un limaçon a une maison.
Lia. Pourquoi, mon enfant? Le fou.
Eh bien, c'est pour y mettre sa tête, et non pas pour l'abandonner à ses filles et laisser ses cornes sans abri.
Lia.
J'oublierai ma bonté naturelle.
Un si bon père.
Mes chevaux sont-ils prêts?
Le fou.
Tes ânes se sont mis à prêt. La raison qui fait que les 7 étoiles ne sont pas plus de 7 est une bien bonne raison.
Lia.
Parce qu'elles ne sont pas 8?
Le fou.
Précisément. Tu serais un très bon fou.
Lire. Le reprendre de force. Monstrueuse ingratitude.
Le fou. Si tu étais mon fou, oncle, je t'aurais fait battre pour être devenu vieux avant le temps.
Lia. Comment cela?
Le fou. Tu n'aurais pas dû être vieux avant d'être sage.
Lire. Oh, que je ne devienne pas fou, que je ne sois pas fou. Ciel miséricordieux, conserve-moi de la modération. Je ne voudrais pas devenir fou.
Entre un gentilhomme.
Eh bien, mes chevaux sont-ils prêts?
Le gentilhomme.
Tout prêt, monseigneur.
Lia.
Viens, mon enfant.